Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Vous êtes sur Atomic Mac, l'émission mensuelle de Sortir du nucléaire Dromardèche. Avec nous aujourd'hui, Marc Papillon, animateur de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, plus connu sous son acronyme la FRAPNA. Mais tout de suite donc, nos billettistes énervés prennent la parole. Vas-y Georges, c'est reparti.
Oui, et encore une Java de plus, cette fois-ci dans le Grand Nord. C'est l'ONG le Robin des Bois qui a recensé 90 sites contaminés de déchets nucléaires dus à des activités militaires et industrielles. Elle a collecté pendant 2 ans et jusqu'au premier trimestre 2013 auprès des scientifiques, associations environnementales et services gouvernementaux des données incomplètes publiées en partie par la revue Contrôle de l'ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire. Sur ces 90 sites recensés, la moitié est concentrée par la Russie, car la pollution est pour l'essentiel due à des activités sur place. Au palmarès de la Russie, héritage de la guerre froide, 2 sous-marins nucléaires, le K-27 et le K-159, 5 réacteurs sous-marins et brise-glace, près de 20 bateaux avec des matières radioactives, des centaines d'objets contaminés et 17 000 conteneurs de déchets nucléaires. Tout ça dans l'océan Arctique. A ajouté des fuites dans 2 piscines de refroidissement de combustible nucléaire. Pour les USA, 2 réacteurs militaires nucléaires ont pollué les cours d'eau et laissé dans les glaces 200 tonnes de déchets liquides. Quant au Canada, près du Grand Lac de l'Ours, l'exploitation des mines de radium et d'uranium a généré 900 000 tonnes de déchets miniers d'uranium laissés sur place, dont 740 000 immergés dans le lac. Plus la chute en 1978 du satellite espion soviétique Cosmos 954 avec réacteur nucléaire dans le nord du Canada, où plus de 120 000 km² contaminés par de l'uranium enrichi et des produits de fission, plus un crash d'un bombardier US B-52 avec tête nucléaire près de Thule dans le Groenland, avec au moins 1 kg de plutonium sur un rayon de 17 km. Enfin, les mines et les forages pétroliers génèrent des déchets à radioactivité naturelle renforcée, traités par des opérations insuffisantes de décontamination de la Grande-Bretagne et de l'Europe, car les zones sont immenses, la pollution disséminée et les crédits insuffisants. Jacques Bonnemain, président de Robin des Bois, explique que l'océan Arctique, gigantesque vivier de poissons pour les espèces indigènes, dont la santé est menacée, risque la dissémination de substances radioactives dues à la fonte de la banquise polaire et le dégel du permafrost. Toujours en Arctique, en plus de la réduction de la banquise, le changement climatique conduit des colonies d'oiseaux habituellement rencontrées plus au sud à élire domicile dans le Grand Nord. Voilà pour le Grand Nord.
Eh bien, merci Georges pour ces messages peu encourageants.
J'essaierai de faire mieux la prochaine fois.
Voilà, j'espère bien. Christophe, tu voulais nous parler de Cruas.
Oui, vendredi 23 novembre 2012, il y a donc une semaine, un wagon vide de type Castor est arrivé à la centrale de Cruas, en provenance de La Hague. Les Castors servent à transporter les combustibles usés à très hautement irradiés des réacteurs à destination de La Hague. Arrivé vide à Cruas, il devait repartir dans la semaine suivante avec un chargement pour La Hague. À midi, le 23 novembre, les cheminots desservent la centrale et pour une raison encore inconnue, sur la voie de desserte, les 2 roues avant ont déraillé, le wagon vide n'a pas basculé. Cet accident sans risque nucléaire aurait toutefois pu se produire la semaine suivante avec un wagon chargé de combustible très irradié. Que s'est-il passé ? Une enquête est en cours, mais les cheminots savent que les voies de desserte des centrales sont peu entretenues. La SNCF, considérant que la faible vitesse permise sur ces voies, 20 km/h, ne nécessite pas un entretien du ballast et des traverses de même niveau que sur les voies ouvertes au trafic voyageur. Il n'est donc pas rare que des déraillements se produisent dans les triages et les voies de desserte. EDF et Areva, ainsi que l'ASN, l'Agence de Sûreté Nucléaire, considèrent qu'il est de la responsabilité seule de la SNCF d'assurer la sécurité des transports de déchets radioactifs, y compris des transports de combustibles hautement irradiés. L'ASN l'a même rappelé à la SNCF en décembre 2011. dans un courrier adressé au Comité national d'hygiène et de sécurité. Ainsi, l'industrie nucléaire et l'État laissent à l'entreprise nationale des chemins de fer bien connus pour sa haute compétence en matière de protection nucléaire, le soin d'assurer la sécurité de ses transports. Si l'ASN vérifie l'état des voies à l'intérieur de la centrale, elle se contrefout de ce qui se passe à l'extérieur, prenant ainsi le risque d'un déraillement des wagons, d'un wagon aussi sensible qu'un castor. Le nucléaire est sûr, disent-ils. L'ASN veille, affirme-t-ils. Et les wagons déraillent à la porte de la centrale.
Eh bien, Pierrick, à toi, j'espère que tu ne vas pas dérailler.
Je vais essayer pour ce coup de gueule envers l'IRSN. Donc, ce billet fait suite au séminaire auquel j'ai participé à Paris, qui était organisé par l'IRSN et l'ANCLI, l'Agence nationale des comités et commissions locales d'information. Donc, je pose la question, l'IRSN, un expert public au-dessus de tout soupçon. Alors, en préalable, nous tenons à préciser que nous dissocions l'IRSN et les communications qu'elle fait à l'extérieur. De nombreuses personnes au sein de cet institut affirment effectuer leur travail en conscience. Le SCPRI, l'OPRI, l'IPSN, puis l'IRSN sont les noms successifs qui ont abouti, suite à la fusion entre les techniciens et les médecins, à la création du célèbre Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Sous couvert de rigueur scientifique et d'indépendance, l'IRSN produit régulièrement des documents que nous analysons comme utiles à l'industrie nucléaire. La première grande affaire sanitaire atomique française a été celle qui concernait Tchernobyl en 86. Le célèbre professeur Pellerin a relayé docilement par tous les médias et a affirmé qu'aucune mesure de protection des populations n'était nécessaire suite au passage du nuage sur la France. Durant des années, il a transformé toutes les atteintes aux vivants par des radionucléides en simple règle de 3. Pour atteindre la limite annuelle d'incorporation, il faudrait qu'une personne consomme 2 tonnes de laitue à 140 becquerels par kilo dans l'année. Et pour chaque végétal et pour chaque niveau de contamination, il reprenait sa calculette. 26 ans après la catastrophe de Tchernobyl, ce procédé caricatural et délibérément trompeur du professeur Pellerin perdure. La seconde grosse affaire, qui a concerné l'étude épidémiologique du professeur Vielle, pourtant publiée dans le prestigieux British Medical Journal, cette étude montrait un doublement des leucémies infantiles autour de l'usine Kojima de La Hague. C'est une commission de l'IRSN qui est revenue le rôle de démonter le travail du professeur, en concluant que la piste qui a l'air d'être la plus fortement soutenue est celle du hasard. Incroyable. La France fut la risée de la communauté scientifique internationale suite à son dénigrement des travaux du professeur Vielle. Malgré les efforts de cette commission, une nouvelle étude épidémiologique en 2001 a confirmé que les travaux du professeur Vielle étaient les bons. La troisième grosse affaire concerne le démontage de toutes les études à propos des excès de leucémie et cancer infantile autour des installations nucléaires européennes. Toutes, pas vraiment, puisque l'IRSN a participé à l'élaboration d'un certain nombre d'entre elles, comme au Tricastin, et a donc pu peser directement sur leurs conclusions. L'IRSN atteint le summum de la manipulation par son analyse de la catastrophe de Fukushima. En voici deux exemples. Pour un niveau inférieur à 100 millisieverts, aucun effet à long terme sur la santé a été démontré. Faux, répond le cabinet d'études de faible dose Moller et Mousseau. Ce n'est pas la seule étude d'ailleurs qui va dans ce sens. Les impacts sanitaires sont pourtant différents entre les personnes en raison des différentes sensibilités à la radioactivité. Ça aussi, c'est une affirmation de l'IRSN qui vise simplement à exonérer les coupables et à, par cette affirmation, permettre une culpabilisation des victimes. Comme pour l'amiante et les académies des sciences et de médecine participent à l'omerta atomique au détriment de la santé publique. Un livre, Du tabac au climat, la stratégie du doute, démontrait récemment comment les lobbies imposaient leur vision à la société contre toutes les évidences scientifiques. La revue La Recherche a résumé de cet ouvrage la question suivante. Quel lien existe-t-il entre les méfaits du tabac, les plus acides et le trou noir, les trous dans la couche d'ozone, pardon. Une stratégie commune de manipulation de la science qui date des années 80. Ce livre de référence oublie d'évoquer l'amiante et le nucléaire, probablement du fait que, pour ces deux derniers, la communauté scientifique tout en entier, ainsi que l'État, est directement impliquée. En gros, ces quelques faits vérifiables imposent à l'IRSN de revenir à des pratiques où sa déontologie ne puisse être remise en cause par l'Institut du fait qu'elle a un impératif devoir de service public. De notre point de vue, l'IRSN n'a jamais rempli son rôle, si ce n'est en rassurant la société sous anesthésie mensongère tout en couvrant des atteintes irréversibles à la santé publique.
Alors. Bonjour à tous, spéciale dernière, c'est Alain qui vous parle. La semaine dernière, la ministre de l'écologie, Delphine Batho, a annoncé le lancement du débat national sur la transition énergétique. Nous avons décidé, à Sortir du nucléaire, de ne pas participer officiellement à ce débat, car nous n'avons pas confiance dans la réelle volonté du gouvernement de sortir du nucléaire, en particulier quand on voit qu'ils choisissent Anne Lauvergeon, l'ancienne patronne d'Areva, dans la commission qui va animer ce débat. Ceci ne nous empêchera pas de donner notre position de l'extérieur. Nos amis de Greenpeace, eux aussi, ont décidé de ne pas participer. En revanche, ils ont marqué le début de ce débat en débarquant vendredi dernier par le canal du Rhône à la centrale de Tricastin pour demander la fermeture de cette vieille centrale, elle a plus de 30 ans, située en zone sismique. Nous reviendrons plus longuement sur ce sujet lors d'un prochain billet.
Eh bien, puisque Pierrick nous a parlé des gens qui ne doutaient pas, on va leur dédier la chanson d'Anne Sylvestre qui vient.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur fasse foutent la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps, qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Nous sommes toujours sur Atomic Mac, la radio de Sortir du nucléaire Dromardèche, et aujourd'hui nous sommes avec Marc Papillon, un des animateurs de la FRAPNA. Alors bon, rapidement Marc, bonjour Marc déjà.
Bonjour.
Et rapidement, la FRAPNA, ou les FRAPNA on va dire, c'est 40 ans aujourd'hui, 200 associations fédérées, 8 départements, 45 000 adhérents, membres de la Fédération Nationale de l'Environnement, mais la FRAPNA Drôme, une petite photographie.
Alors, la FRAPNA Drôme, effectivement, c'est une section départementale à l'intérieur de la FRAPNA, et peut-être que, pour bien comprendre ce que fait la FRAPNA, parce que c'est vrai que c'est encore un nom, une abréviation qui parle pas forcément aux gens, on en a entendu beaucoup tout à l'heure, et c'est vrai que ce discours, ces mots étanches, et il faut les ouvrir et puis essayer d'expliquer qu'est-ce que ces abréviations signifient. Donc, la FRAPNA, c'est une association de protection de la nature, qui est né dans les années 60 et qui s'est structuré petit à petit avec le mouvement écologiste aussi en France. Les années 60, ce qui a été déterminant en France, c'est la mise en place du parc national de la Vanoise. Et suite à cette mise en place, les gens qui étaient à l'époque vivants et qui militaient dans les associations écologistes se réjouissaient, très rapidement a été mise en danger par un projet de station de ski. Donc rapidement, il a fallu se mobiliser. Et du moment où les naturalistes étaient passionnés par la nature, par les chamois qu'il y avait dans le parc de la Vanoise, par les bouquetins qui arrivaient effectivement du Grand Paradis, d'un seul coup, ils se sont rendus compte que leur passion et leur amour de la nature, il allait falloir la défendre. Et cette mobilisation contre cette station de ski a donné lieu à une première association qui s'était appelée Hommes et Nature. Et là, effectivement, on commençait à se détacher effectivement de la nature pour prendre en compte l'impact des activités humaines. Et Hommes et Nature a débouché sur la création de la FRAPNA, d'abord en Savoie, et puis finalement sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes dans les années 70. Et la FRAPNA Drôme arrive donc en 1977. Et je ne voudrais pas oublier quand même un événement important qui a structuré aussi le mouvement de la FRAPNA et dans lequel la FRAPNA a été vraiment active, et c'est la manifestation à Crémalville contre Superphénix. Et de Hommes et Nature, on s'est aperçu très vite qu'effectivement le nucléaire, c'était un enjeu fort contre lequel il allait falloir lutter pour arriver à préserver le vivant dans son ensemble.
Oui, si on peut résumer, en gros, si on entend bien, c'est le côté les chamois d'abord aussi qui ont présidé à la création, et puis la lutte elle-même avec illustrée par le nucléaire, quoi. C'est l'association à la fois des mouvements environnementalistes et des mouvements plus militants.
Tout à fait, c'est d'abord la passion de la nature, et puis ensuite comment on défend cette passion de la nature, et de fait maintenant une évolution forte vers tous les champs dans lesquels l'homme effectivement a un impact sur l'environnement et qui deviennent au centre de nos préoccupations, dont l'énergie dont j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement les déchets, tout ce qui est occupation des terres agricoles. Et c'est vrai qu'il y a des vieux militants de la FRAPNA qui nous disent moi je suis rentré à la FRAPNA d'abord parce que j'étais passionné par les oiseaux, et puis voilà, maintenant je suis dans les poubelles et les déchets. Donc c'est une évolution normale, parce qu'effectivement il y a eu l'émergence toutes ces années des enjeux écologiques forts. On a parlé effectivement de la problématique énergétique, et puis ensuite de tous les enjeux qui sont venus derrière. Je voulais dire qu'il y avait une composante quand même commune à toutes ces luttes, et on la retrouve maintenant dans la lutte contre le nucléaire, c'est défendre le bien commun contre le pouvoir du fric. C'est-à-dire qu'il y a d'une part des gens qui ont le souhait de s'enrichir, des organisations qui ont le souhait de s'enrichir, et qui vont mettre en place des lobbies forts, et ils vont s'enrichir au détriment du bien commun. Et au contraire, effectivement, tous les écologistes et les gens de la FRAPNA et les gens de Sortir du Nucléaire ont envie de défendre ce bien commun, et c'est parfois très difficile à faire entendre. C'est vrai qu'en face de nous, on a des gens qui ont des moyens de communication qui sont énormes. Ils ont aussi des discours, des mots qui rentrent facilement dans la tête des gens, une certaine démagogie. Et nous, on fait avec nos petits moyens et on essaye simplement de faire passer.
Alors, on va revoir un petit peu après sur les moyens de se faire entendre, justement, mais quand j'ai regardé un petit peu les objectifs, un peu l'image de la FRAPNA dans les médias, etc., il y a quelque chose qui apparaît souvent, c'est, d'ailleurs vous l'écrivez vous-même, c'est permettre aux citoyens de devenir acteurs de la protection de l'environnement. Dans la Drôme, ça se concrétise comment ?
Oui, je pense que ça c'est important, surtout après la chanson d'Anne Sylvestre. On n'a pas de vérité à amener. D'ailleurs, qui a des vérités actuellement à amener, à part des gens qui souhaitent finalement nous rouler ? Il n'y a pas de vérité face aux enjeux écologiques. Donc il faut qu'on travaille ensemble et qu'on prenne conscience des difficultés auxquelles on va être confronté. Il y a deux solutions. Soit effectivement on va vers une situation dans laquelle il y aura une telle urgence écologique qu'il va falloir décréter ce qu'on appelle l'état d'urgence, et on sait qu'effectivement si un jour il y a un état d'urgence, ça veut dire qu'on n'aura plus de démocratie. Okay. Soit on commence tout de suite à travailler ensemble, à essayer de se responsabiliser et à dire comment on veut la société de demain, et on propose effectivement cette deuxième voie là et l'idée à la FRAPNA, c'est de diffuser les connaissances, diffuser les compétences pour qu'on puisse tous être des citoyens responsables et participer. Alors effectivement, on a entendu tout à l'heure parler des différentes manœuvres qui ont été mises en place par les gouvernements successifs d'ailleurs pour essayer de résoudre les problèmes écologiques. Alors on participe, on essaye de dire aux citoyens participer. Parfois on est sans illusion, mais on essaye de pousser chaque fois qu'on peut à tous les endroits. Et pour ça, il faut qu'on soit nombreux et il faut que les gens développent leurs compétences. Voilà, c'est la FRAPNA, c'est un lieu ressource. pour permettre de mutualiser, pour permettre de se renforcer dans ses compétences, ses connaissances, pour pouvoir militer et continuer à faire avancer nos idées.
Et vous vous adressez à toute une catégorie d'âge, à la fois les enfants, les adultes, etc. Vous organisez des opérations particulières?
Oui, on s'adresse effectivement à tous les âges. On essaye de toucher le maximum de gens. On est bien conscient que nos discours, avec les idées qu'elles véhiculent, ne sont pas faciles à faire passer. C'est vrai qu'en face de nous, on a des gens qui amènent des vérités. Je parlais tout à l'heure, hors micro, de la difficulté qu'on a à dénoncer une centrale biomasse qui vient de se mettre en route, d'ailleurs, sur Pierrelatte. C'est vrai qu'effectivement, dans l'inconscient collectif, utiliser du bois pour chauffer, c'est tout à fait logique. Et quand nous, on veut dénoncer cette manœuvre-là, on nous renvoie, mais attendez, donc vous ne voulez pas utiliser le bois, donc vous préférez le nucléaire. Et non, c'est bien plus compliqué que ça. Effectivement, il va falloir gérer tous ces impératifs-là. Le miracle pour remplacer le pétrole, parce qu'il s'agissait bien de ça, c'est ni le nucléaire, ni le bois, ni les énergies renouvelables. C'est un peu de tout ça. Et puis surtout, l'efficacité et le développement des économies d'énergie.
Mmh. D'accord. Je pense qu'Alain va revenir sur le sujet tout à l'heure, mais j'avais une dernière petite question. Moi, c'était sur, également, ça peut intéresser un certain nombre de nos auditeurs. Vous avez préparé ce qu'on appelle des fiches d'alerte. Ça fonctionne comment, ces fiches, et comment les auditeurs là, peuvent les utiliser pour vous aviser de problèmes?
Voilà, donc l'idée, c'est de faire participer tout le monde au niveau où il se trouve. Et effectivement, on a des fiches d'alerte qu'on appelle fiches sentinelles aussi, c'est pas forcément un joli mot. L'idée, c'est que dès que quelqu'un aperçoit près de chez lui, dans son trajet habituel, un impact, une pollution, il peut le signaler à la Frapnadrome. Et il ne s'agit pas d'une administration, donc on ne va pas traiter tout seul le dossier qui a été de la source à la source de cette information, mais on va travailler avec la personne qui nous appelle, alors qu'elle nous appelle ou qu'elle nous envoie un courrier, ou qu'elle nous envoie une fiche alerte. On va traiter avec elle ce problème qu'elle a remarqué, et puis on va essayer de le faire évoluer.
D'accord. Je pense qu'on va reparler de la centrale biomasse après. On va écouter une petite chanson de Duval MC et on reprend notre débat juste après.
Depuis qu'on parle de l'hiver nucléaire pour les hommes, est-ce que ça sentirait pas un peu la fin de l'automne ? Méfions-nous, l'empire de la thune veut encore exploser l'atome. Ils craignent les énergies qui coûteraient 3 centimes. Au début des 60s, les USA ont poussé la France à d'y laisser. Contrat de nucléaire civil soit des centrales au grand jour et la bombe en secret. Alors ici encore on fait des watts avec, même si c'est un gouffre économique. 300 milliards de subventions publiques pour ITER et rien pour l'écologique. Leur but est de vendre des trucs à neutrons, faire croire que c'est propre et les crétins vont croire qu'on a dompté les protons. À travers les plaines de l'Hexagone, il y a encore 58 réacteurs d'échappe fêlée pesant 10 000 tonnes. Des incidents presque tous les jours. Arriva au Niger dans ses mines d'uranium, contamine les villages sans que des gars l'analysent. Sur nos routes, on envoie des convois de plutonium, de quoi niquer des régions dans des camions qu'on banalise. Et même si les trois quarts de l'Europe stoppent, que le monde entier attend qu'on démantèle, ils font le PR et les ouvriers se tapent des journées de ouf au cœur des centrales. Désolé pour ta confiance, ta précieuse insouciance, l'endroit le plus dangereux du globe et peut-être en France. Un seul réacteur pète et la région est dévastée. Sur 100 km à la ronde on serait condamné. Et d'autres plus lentement verront leur rein ne plus fonctionner, leur peau se décomposer, leurs os se désagréger. 26 avril 86, Tchernobyl a explosé, l'Europe est contaminée, l'URSS est ruinée. Les plantes, l'eau, les sols, l'air et les murs sont irradiés. Là-bas, les enfants monstres hurlent leur humanité. La structure atomique en vrac et détraquante et son impact est invisible et nous comporte un paquet de tracas cliniques. On en mesure à peine, les conséquences sont réelles. On va compter encore des dégâts et pas qu'en Ukraine. Du césium 137 en Corse, des brebis difformes en Écosse et des milliers de gens qui carburent au Levothyrox. En PACA, tu sais, y'a tarpin de thyroïde en galère. De l'Hérault jusqu'au Mercantour, il n'y a pas que mon père. 60 000 tonnes de déchets par an, on enterre, on enterre. Les outils si les machines irradiées. On enterre, on enterre les combinaisons, les gants pollués. On enterre, on enterre. Plus de place à l'ague, alors dans l'aube. On enterre, on enterre. Et ces abrutis osent dire que leurs sarcophages sont sûrs que durant plus de 20 millions d'années ça va tenir. On laisse le problème à nos arrières, 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 petits enfants, le seul pays au monde autant équipé nucléaire. Et le plus grand consommateur en antidépresseurs. Désolé, le tableau est bien sombre, mais il est clair qu'il faut le dire et vite enfin sortir du nucléaire.
Nous reprenons le débat avec Marc Papillon de la Frappe Nadreau. Marc, tout à l'heure, vous avez parlé de communication et je crois que vous avez une excellente revue mensuelle qui s'appelle Les Épines Dromoises, que je recommande d'ailleurs à tous nos auditeurs. Vous avez récemment dans cette revue publié deux articles, un sur les centrales nucléaires, un deuxième sur les transports nucléaires. Donc effectivement, cette problématique des dangers de l'énergie nucléaire est constante et régulière auprès de la FRAPNA. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre position justement sur la fermeture de la centrale du Tricastin, cette vieille centrale qui a plus de 30 ans et qui commence à poser des problèmes?
La fermeture de la centrale du Tricastin, je crois que ça fait bientôt 10 ans qu'on la demande, parce qu'il faut quand même se souvenir que déjà à la fin des 10 premières années de fonctionnement, on s'était aperçu qu'il y avait un certain nombre de défauts d'origine sur la cuve. Et en plus, bon, c'est vrai qu'on a participé à la Cligette. Maintenant, c'est effectivement Pierrick qui s'en occupe. On a participé pendant toutes ces années à Cligette et on a pu relever toutes les incohérences, tous les accidents, toutes les incertitudes qui entouraient le fonctionnement de ces équipements. La centrale du Tricastin, c'est une des centrales les plus anciennes dont il faudrait s'occuper d'urgence. Et s'occuper d'urgence d'une centrale nucléaire comme celle-là, c'est effectivement la fermer rapidement.
Donc vous êtes favorable effectivement à cette fermeture dans les meilleurs délais?
Ah, tout à fait, oui.
D'autre part, je crois que la FRAPNA avait participé il y a quelques années à l'étude qu'évoquait tout à l'heure Pierrick sur les cancers autour, enfin l'accroissement des cancers, pardon, autour des centrales nucléaires et en général, et du Tricastin en particulier.
Oui, c'était une des...
Avec Monsieur Morichaud.
Tout à fait. Alors, Jean-Pierre Morichaud, qui nous représente encore et qui nous a représenté pendant longtemps à la Cligette, avait demandé la mise en place d'une étude cancer. Alors, effectivement, il aurait voulu une étude cancer d'une autre ambition que celle qui s'est mise en place, à savoir qu'il aurait été intéressant qu'on puisse mettre en place sur la Drôme, comme ça s'est fait dans l'Isère, un registre des cancers. Registre des cancers qui prendrait en compte l'ensemble des maladies environnementales qui sont provoquées par non seulement le nucléaire, mais aussi toutes les industries chimiques. L'idée, c'est de vérifier l'impact de toutes ces industries, et en particulier dans la combinaison des différents facteurs, à savoir qu'on sait, on sait qu'un impact d'origine chimique combiné à un impact d'origine nucléaire a un effet catastrophique. Donc l'idée de départ, c'était d'essayer de mettre en place une enquête pour savoir où on en était par rapport à la santé environnementale, particulièrement autour des équipements du Tricastin.
Et que s'est-il passé, en définitive ?
Il y a eu une enquête, alors, qui a utilisé les chiffres qui étaient mis à disposition par l'INSERM. Et pour aller faire d'une manière très courte, la première partie de l'enquête a bien été réalisée, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est servi de ces chiffres pour voir s'il y avait une surincidence de cancer sur un rayon relativement important autour de ces équipements. Et on n'a rien trouvé, à part que quand même, il y a une surincidence très nette des cancers du pancréas chez la femme sur certains secteurs. Donc c'était un fait inquiétant et suffisamment inquiétant pour qu'on continue à comprendre, à essayer de comprendre pourquoi il y avait cette surincidence. Et non, il a été dit qu'en fait, le cancer du pancréas n'était pas un cancer d'origine nucléaire, entre guillemets, et donc l'étude ne s'arrêtait là, puisqu'en fait, on avait fait le tour de tout ce qui était cancer d'origine nucléaire.
D'accord, donc on refuse d'aller plus loin et blackout complet après.
Oui, tout à fait.
D'accord. Alors, justement, en élargissant un peu, quelle va être la position de la FRAPNA dans le débat justement sur la transition énergétique qui s'annonce, un débat citoyen, un débat large? C'est la première fois qu'on a un vrai débat citoyen. Et comment la FRAPNA, avec tous ses adhérents, va pouvoir avancer dans ce débat? Quelle est votre position? J'ai cru comprendre qu'il y avait cette semaine une réunion de votre commission énergie justement pour aborder cette problématique de transition énergétique. Donc apparemment, vous planchez sur le sujet.
Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on planche sur le sujet de différentes manières. Il y a certains d'entre nous qui travaillent pour lutter contre la mise en place de ces centrales biomasse. Certains d'entre nous travaillent pour dénoncer la mise en place de fermes solaires industrielles. D'autres se battent contre des champs d'éoliennes industrielles. On l'a vu, il y a eu des gros collectifs gaz de schiste qui ont été efficaces et dans lesquels la FRAPNA s'est beaucoup impliquée, qui ont été actifs. Et effectivement, depuis longtemps, on l'a déjà dit, on s'est impliqué dans la lutte contre le nucléaire. Le problème souvent, c'est qu'on nous renvoie dos à dos, c'est-à-dire que quand on va voir les interlocuteurs, ils nous disent « Ah, mais attendez, vous voulez pas de l'éolien, mais alors donc vous voulez quoi? Vous voulez pas de nucléaire, vous voulez pas de biomasse, etc. » Et effectivement, la bonne solution, c'est ce que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, c'est la transition énergétique. Et pour mettre en place cette transition énergétique, il faut qu'on arrive à se rassembler et il faut que les antinucléaires, avec les anti-gaz de schiste, avec ceux qui sont contre la centrale biomasse, arrivent à tenir un discours unique. Et c'est vrai que c'est en train de s'amorcer au niveau français. Nous, on aimerait bien faire ça aussi au niveau de Romois, enfin contribuer à cette idée-là au niveau de Romois. Donc, jeudi soir à 18h, on se réunit à la FRAPNA, on réunit la commission énergie pour essayer de mettre en place cette transition énergétique et puis de rassembler tous ces mouvements qui finalement sont forts, chacun dans leur secteur, mais dont on aimerait bien bénéficier de la force pour avancer plus globalement, plus transversalement.
D'accord. Alors je reviens un instant sur la centrale biomasse. Dans la transition énergétique, quand on lit les scénarios alternatifs divers qui existent, tous disent que la biomasse est un élément important de cette transition énergétique. Elle peut produire jusqu'à 45% de l'énergie totale à 2050. Donc la biomasse, les centrales biomasse, vous êtes contre, vous êtes pour, ou bien c'est spécifique à la centrale biomasse de Pierrelatte, qui est un monstre, puisque c'est absolument énorme, avec 150 000 tonnes de bois, des camions partout. Est-ce que vous êtes contre cette centrale particulièrement ou contre la biomasse en général?
Voilà, donc je vais faire une réponse compliquée. D'une manière générale, les énergies renouvelables doivent être utilisées au plus près de leurs utilisateurs. Chaque fois qu'on parle de centrales ou de méga-centrales, quand il s'agit d'utiliser des énergies renouvelables, c'est simplement qu'on se situe dans un schéma qui était le schéma précédent, dans lequel on était dans une centralisation, parce qu'effectivement on était dépendant d'énergie qui nous venait d'ailleurs, à savoir le pétrole, à savoir le gaz, à savoir l'uranium, et que ce schéma-là, il n'a plus de raison d'être. Et pourquoi on le maintient? Parce qu'effectivement, derrière, il y a des lobbies importants qui cherchent à continuer à faire du fric et à garder le monopole sur ses ressources. Alors qu'en fait, la biomasse, elle est à utiliser au plus près du consommateur. Donc, le problème du bois, c'est encore un problème à l'intérieur de la biomasse. Comment l'utiliser ? Le problème du bois, c'est qu'avant tout, c'est une façon de stocker le carbone. On sait que dans les urgences énergétiques et dans les urgences écologiques, la première des urgences, ça va être de lutter contre le dérèglement climatique. Et pour éviter de continuer à libérer du CO2, il faut continuer à maintenir les puits de carbone, donc les endroits où on va pouvoir le stocker. Et un des gros puits de carbone, c'est effectivement la forêt. Donc l'idée, c'est d'éviter d'aller chercher cette forêt pour la brûler en libérant de nouveau du carbone. La première utilisation de la forêt, pour nous, ça doit être le bois d'œuvre. Actuellement, il y a énormément de constructions qui sont faites, la plupart des constructions qui sont faites en béton d'une manière traditionnelle. Tout ça, non seulement est énergivore, mais en plus dégage énormément de CO2. Il y a des alternatives à développer, en particulier tout ce qui est la construction de bois. Pour l'instant, c'est pas du tout dans l'air du temps. Et effectivement, on est encore dans une gestion à très court terme, c'est-à-dire que on a un problème d'urgence énergétique, on a du bois, tiens, qu'est-ce qu'on fait? On brûle du bois. Mais non, c'est pas ça, il faut réfléchir beaucoup plus globalement. Le problème, il est à la fois d'une urgence énergétique, mais à la fois effectivement d'un dérèglement climatique, et puis à la fois d'une ressource pétrolière qui va aller en s'amenuisant. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? il va falloir utiliser ce bois pour faire du bois d'œuvre, pour remplacer tous les matériaux qu'on a utilisés jusqu'à maintenant et qui ont gaspillé les ressources énergétiques. Et puis, il va falloir surtout remplacer, chaque fois qu'on en avait besoin, ce pétrole. Autrefois, on avait par exemple des radios en bois. Et bien, il va falloir revenir à ce niveau-là parce qu'effectivement, il y a du matériel qui traditionnellement était en bois et qui est devenu du matériel plastique. Il va falloir...
D'accord. Donc Marc, on a bien compris effectivement que la FRAPNA a beaucoup de choses à dire dans ce débat sur l'autonomie énergétique. Vous êtes au carrefour de beaucoup de luttes et je pense qu'il serait utile que tous les auditeurs qui nous écoutent puissent demain aussi venir participer. Donc si on veut contacter la FRAPNA, si on veut même adhérer à la FRAPNA, comment fait-on ?
Bon, la première chose, c'est que tout ce que j'ai développé là, vous le trouverez dans les Épines Dromoises qui vont sortir au mois de décembre, D'accord. qui est un journal qui est fabriqué d'une manière coopérative et qui implique à chaque numéro 70 bénévoles.
On le trouve dans les kiosques, on l'achète où ?
Vous le trouvez soit dans les kiosques, soit vous pouvez venir directement à la FRAPNA, qui est 38 avenue de Verdun à Valence.
Ou s'abonner.
Ou s'abonner, d'accord. bien sûr. C'est important aussi d'acheter les journaux dans les kiosques parce qu'on fait vivre aussi un lien social. Et puis, on continue à encourager effectivement un contact entre les individus. Alors, effectivement, on peut aussi s'abonner. C'est la meilleure manière de ne pas louper aucun numéro. Donc, la FRAPNA Drôme, 38 avenue de Verdun, 26 000 Valence. Vous pouvez consulter notre site internet www.frapna-drôme.org et puis notre numéro de téléphone 04 75 81 12 44. Un email aussi, frapna.drome@frapna.org. frapna-drome@frapna.org. Ça y est, je vais y arriver.
De toute façon, ce sera sur le site de Radio Méga dans l'espace Sortir du nucléaire. Je pense qu'effectivement, on avait plein d'autres questions à poser à la FRAPNA. Je pense que ce sera l'occasion peut-être de refaire des émissions sur des thèmes plus tout à fait particuliers. En tout cas, merci beaucoup à toi, Marc. Céline, maintenant tu as notre agenda à présenter, la parole est à toi.
Bonjour à tous. Oui, donc les événements à venir, à ne pas manquer dans les jours, les semaines, les mois à venir. Donc le mercredi 5 décembre à 19h15 à Saint-Paul-Trois-Châteaux, salle Chosy, aura lieu une conférence débat en présence de Raphaël Granvaux, auteur d'Areva en Afrique. Cette conférence sera organisée par Survie 2607, donc Survie Dromardèche. Les thèmes en seront les réseaux France-Africains d'Areva, la politique de la France au Niger pour préserver ses intérêts économiques, les impacts sanitaires, sociaux et environnementaux de l'exploitation minière d'Areva dans ces régions. Donc ça, c'est le 5 décembre à Saint-Paul-Trois-Châteaux, 19h15. Le dimanche 9 décembre aura lieu à Vernosque-les-Annonay la foire bio de l'Ardèche verte. Elle se déroulera de 10h à 18h. Vous pourrez y rencontrer de nombreux exposants. Une restauration sur place est possible. Je tiens à vous informer que notre association Sortir du nucléaire en Dromardèche sera présente sur la foire et tiendra un stand. Vous aurez l'occasion de nous y rencontrer si vous le souhaitez. Le programme complet de la foire bio est disponible sur leur blog foireardècheverte.over-blog.com. Le lundi 10 décembre à 18h30, réunion mensuelle de Sortir du nucléaire en Dromardèche au local de la FRAPNA, rue de Verdun à Valence, à ne pas manquer également. Le vendredi 21 décembre, à partir de 19h, retrouvez-nous pour le 5e pique-nique au rond-point des Auréas à Valence. Venez équipés de gilets jaunes et emportez votre pique-nique. Nous dénoncerons ensemble le gaspillage d'électricité sur l'un des ronds-points les plus éclairés de la région valentinoise. Ensuite, le samedi 22 décembre, dans le cadre des animations de Noël de Diolfi, rendez-vous à midi, place Châteauras, pour une soupe chaude. Venez déguiser en Père Noël ou simplement habillé de rouge. Vous pourrez signer une lettre géante au Père Noël qui s'intitule « Offrons le nucléaire, la sortie du nucléaire à nos enfants ». À 14h, départ pour une chaîne humaine. Donc là, je vous rappelle, ce sera le samedi 22 décembre à Diolfi. Des événements un peu plus lointains, donc le samedi 23 février 2013, salle des fêtes de la Voulte, aura lieu la Festichaine, ou le Festichaine, pendant lequel vous pourrez assister à des pièces de théâtre et des concerts. Tout cela en préparation de la Grande Chaîne Humaine, qui elle se tiendra le 9 mars 2013 à Paris. Donc je tenais à vous signaler que vous pouvez d'ores et déjà réserver vos billets de train pour vous rendre à Paris le 9 mars. Plus d'informations sur l'organisation de l'événement sur chainehumaine.org. Voilà, Atomic Mac s'achève pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous le 7 janvier 2013 à la même heure. D'ici là, vous pouvez nous laisser vos messages sur le répondeur au 08 05 69 67 58. Je répète, 08 05 69 67 58. L'émission a été animée par Georges, Pierrick, Christophe, Alain, Dominique
et Céline.
À la technique, Samaël.
Et Céline aussi.
Également. Vous avez pu, au cours de cette émission, entendre les chansons suivantes. Donc, Les gens qui doutent, d'Anne Sylvestre. Duval MC, qui a chanté donc, Nucléaire. Et on termine l'émission par une chanson de Joli Môme qui s'intitule Si tu vois le Père Noël. Au revoir.
Regardez, il neige. L'hiver tombe sur nos contrées. Le soleil est bas, les arbres ont maigri. On voit apparaître au-dessus des fenêtres une marionnette rouge à barbe dansée. Les gamins d'Occident, s'ils ont été gentils, auront plein de cadeaux. Mais ce personnage qui paraît tendre, où est-il de janvier à décembre ? Toute l'année, il fait fabriquer ses cadeaux par des ouvriers de 10 ans en entrepôt qui, pour faire ce qui finira sous le sapin, n'iront jamais à l'école et ne liront rien.
Hey ! Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe et gorge ses rênes, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GM.
Pour s'accaparer les matières premières, le Père Noël entretient la corruption et la misère dans ses anciennes colonies où il a toujours les meilleurs prix.
Le pétrole qui fait ce qu'il plastifie finit parfois dans la mer sans qu'on s'en méfie. Et quand il sert à livrer ses joujoux par milliers, il dérègle le climat du globe.
On dit qu'il passe par tous les toits.
Dommage qu'au Burundi ait pas de cheminée.
Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses rênes, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GM. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses rênes, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GM.
Père Noël distribue les boîtes de chocolat, les tranches de saumon, les blocs de foie gras.
Se perpète les penses des porcs à perpète,
qui rit comme des morts et appelle ça les fêtes. En novembre, il vend des